Salut à tous et bienvenue dans les Guidons de l'Info, une émission motarde de printemps. Il fait bon, on a enfin sorti les pulls.
On les a rangés.
Ah, il fait bon faire de la moto cette saison. Une équipe complète ce soir avec The Pat à nos côtés. Salut The Pat.
Salut tout le monde. J'ai retrouvé ma voix.
Ah, c'est bon, c'était bien comme ça.
C'était bien comme ça.
Donc tu vas nous raconter ça.
C'était humide, mais bien.
Salut Dao.
Hey, salut à toutes et à tous.
Tu nous fais sérieux ce soir?
Ouf. Bah, c'est
mais
sérieux,
encore.
C'est ce qui se passe, quoi. Il y a des choses sérieuses qui se passent chez nous, en France et puis en Europe.
Donc on est en plein dans l'actu, là.
Ouais.
Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Oh, la petite voix. Alors Yves, il va monter la voix tout à l'heure parce qu'il va nous faire une petite revue de presse. Hein,
il se réveille, ouais. C'est salaud, c'est une réveille comme ça, froid.
On passe par là quand même. Mais... Ouais, je vous parlais de quelques magazines sur les motos anciennes de collection.
On attend ça avec impatience. Et puis moi, ben, je vais vous parler de l'agenda. Hein. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Et puis je vais commencer cette émission avec mon billet d'humeur. Ça faisait longtemps hein, qu'on ne m'avait pas entendu. Alors, un billet d'humeur à double facette. Un carton rouge et un bon point. J'avais envie. Je commence par lequel? Le bon point ou le carton rouge?
Un carton rouge.
Ah, carton rouge. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé du radar automatique. Et j'ai fait un petit constat il y a quelque temps.
Mais il y en a plus?
Si, ils sont toujours là. Ah, hein. Ah oui, plus que jamais. Ils nous oublient pas.
C'est peut-être parce que je sors plus ou que j'évite les routes où il y a des radars.
Ou alors tu roules toujours à vitesse maximum autorisée.
Tu penses que c'est les fans au bord de la route qui te prennent en photo? Mais
tu
non.
Tu peux rouler à 10 km/h et les voir quand même.
Oui, il y en a un que j'ai noté, que j'avais jamais vraiment vu parce que c'est pas une route que je fréquente beaucoup et j'ai eu l'occasion de la fréquenter pas mal ce mois dernier. C'est la route qui vient de Pibrac vers Toulouse, la 4 voies. Mm-hmm. Vous savez, il y en avait un là. Il y en a toujours un.
Il y est toujours. Oui.
Et d'ailleurs, c'est un qui flash par l'arrière aussi. Hein.
Oui.
Et j'ai fait un constat que je m'étais pas fait avant, qui est assez surprenant. Et ça doit vraiment être le piège à con, ce radar en particulier. Sans dénoter le fait qu'il puisse être utile. Hein. Mais il y a quand même un détail qui est énorme. C'est que le panneau qui annonce ce radar automatique, bah sur le même support, il y a un panneau dessous marqué 110 rappel. Donc ça te saute à la gueule, tu vois un panneau attention radar, 110 rappel.
Mm-hmm.
Donc le mec est un petit peu dans la lune. Qui découvre ça au dernier moment, il regarde son compteur, il se cale à 110, il bouge plus. Mais le problème, c'est que 50 mètres plus loin.
Ouais, il y a le panneau à 90.
Il y a le panneau 90. Et le radar, il flash à 90. Donc, cela, c'est vraiment le piège à con, quoi. Donc, faites attention à celui-là.
Ça se signale, ça, c'est pas. Non,
j'ai failli me faire avoir.
Ouais, non, c'est pas.
Perso, j'ai failli me faire avoir. Ceci dit, je roulais à 110 de toute façon. Mais c'est en arrivant sur le panneau à 90 que je me suis dit merde, t'en es où là au niveau de ta vitesse. C'est quand même surprenant, surtout par rapport au fait qu'il y ait le panneau de limitation de vitesse à 110 rappel, 50 mètres avant le 90, la distance est relativement courte. Alors que là, ils auraient déjà peut-être dû mettre.
Tu veux, dire, 90. Tu veux dire que le deuxième panneau est à peu près autour de 150 mètres, beaucoup plus.
Non, il est tout proche, hein. 50 mètres plus loin.
50 mètres après.
Ça se fait pas, ça, de mettre des panneaux aussi proches pour les changements.
Voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est carton rouge, parce qu'au niveau signalisation, ça fait trop d'informations d'un coup, avec en plus un comportement parano du conducteur en général.
Mais toi, tu te souviens, tu avais fait des réunions avec des gens, des ingénieurs de la route, de la mairie et tout ça, et puis tu avais même plein de numéros de téléphone.
Oui.
Tu pourrais pas passer un petit coup de fil juste pour dire ça?
C'est fait.
Ah, ben voilà. C'est bien.
Voilà, c'est fait. Je sais pas ce qui va être fait, si ça va être fait ou pas fait, mais c'est fait et c'est vrai que la limitation à 90 pourrait commencer là, ça changerait pas grand chose, vu les 50 mètres de distance.
Faites comme Pat, roulez sur la bande d'arrêt d'urgence. Le radar vous attrape pas.
Ouais, c'est pas dit ça.
Non, il prend que deux voies.
Ouais.
La bande d'arrêt d'urgence, c'est une troisième, tu dois être décentré légèrement. Pas valable. Tu dis, je t'ai arrêté.
Les nouveaux prennent sur trois voies, ils arrivent à prendre sur trois voies.
Et ils arrivent même à prendre en sens inverse, non? Tu t'es pas fait prendre une fois en sens inverse, en marche arrière.
Quand même, là, ils ont dû trouver la photo bizarre. J'ai jamais reçu.
Le deuxième point, donc un peu positif, la ville de Toulouse était un grand chantier là, depuis pas mal de temps, grâce à la nouvelle ligne de métro, ou à cause, hein, pour ceux, ça dépend selon de quelle position on se place. Et bien entendu, là, on arrive au bout de ces travaux, on nous refait des bitumes tout propres. Avez-vous remarqué la qualité des passages piétons, des nouveaux ? Êtes-vous déjà passé sur ces nouveaux passages piétons?
Sur le boulevard, il manque pas mal la signalisation. J'ai juste vu les lignes blanches, enfin les micro-lignes blanches de la taille d'un doigt.
Les petits pointillés. Eh ben, j'ai constaté là où ils avaient déjà été refaits, que l'époque des belles bandes blanches bien épaisses et glissantes, c'est une époque révolue effectivement, puisque on a l'impression quasiment que la peinture est
Je t'ai cassé le moral, ma chère.
Vas-y, casse-moi le moral.
En fait, quand il y a des travaux qui sont faits comme ça et qu'il y a une nouvelle signalisation qui est faite. Parce que modification en fait de l'infrastructure, c'est-à-dire que là, comme ils ont élargi un peu les trottoirs, ils en ont profité et tout, c'est la DDE qui fait les travaux initiaux. C'est donc eux qui vont poser les peintures et tout ça.
Aux normes.
Donc eux, ils sont aux normes. Elles sont aux normes. La DDE, ils font pas trop les cons avec ça.
Tu crois que la mairie de Toulouse allait repeindre ?
Voilà. Le problème, c'est qu'elle s'use et qu'ensuite, c'est à la charge de la municipalité de recouvrir en fait. Et là, après, souvent, ils regardent ce qui est moins cher, quoi.
Ça vaut mieux bon, en attendant, pour l'instant, balles. Elles sont drôlement bien, donc c'est affaire bien, à suivre. Elles sont, elles sont bien parce que ça glisse pas du tout. Elles sont peintes bien correctement dans l'axe de circulation, donc tu peux bien placer entre les deux.
La peinture bouge pas les trous en fait du goudron.
Voilà.
Et du coup, l'adhérence existe.
Et en plus, il y a des normes très sévères hein, sur les peintures des bandes blanches.
Et puis c'est bien, il y a des pistes cyclables partout, il y a des espaces pour les vélos, donc on commence à prendre un petit peu plus en compte les utilisateurs fragiles.
Ça sent les élections.
Plein nez. Donc à surveiller de près effectivement hein, quand ils vont les repeindre.
Mais ils les ont repeints il n'y a pas très longtemps vers chez nous, Jacinthe.
Et bien justement, ceux qui sont vers chez nous, ils sont bien.
Ceux du Grand Rond, regarde maintenant qu'ils commencent à s'user, ils ont été repeints il y a un an à peu près. Et ben sur le Grand Rond, quand il pleut, ça commence à être chaud. Hein. Les passages piétons là, du Grand Rond, à côté du kiosque où ils ont les nems chinoises, là, commence à être usé par les camions. Et maintenant, ça y est, ça glisse.
D'accord. C'est la gomme qui glisse.
Ça doit être ça. C'est comme sur piste en fait. Faudrait faire 4 fois le tour du Grand Rond pour être sûr de ta trajectoire, pour nettoyer la trajectoire.
Bon, petit message perso à Jean-Michel Latte, si tu nous écoutes, fais gaffe au marquage. Voilà. C'était la conclusion de ce billet d'humeur. Sans transition, l'agenda. Alors, l'agenda, ça commence ce week-end.
Déjà ?
Bah oui. Avec la grande mobilisation nationale et with the Pat. La FFMC est dans la rue sur 2 jours.
14 et 15 avril.
Dans toute la France. Il y aura des manifestations et le rendez-vous des Toulousains.
Et bien là, chez nous, on aura rendez-vous samedi 14 avril à 1h30, directement sur la piste municipale de Candy, d'où on partira avec tout le monde. On fera qu'un seul convoi cette fois-ci. Le trajet, on verra ça sur place ou
Le trajet, je le connais pas, donc il suffit de se retrouver à Candy à 13h30 et puis vous suivez le mouvement.
C'est clair.
Je crois que c'est le mieux à faire.
On en reparlera pendant 2 petites minutes dans les actus.
Je voulais vous chercher quelque chose dont m'a fait remarquer Yves tout à l'heure, qui a mis le nez sur une petite balade qui se passe dans nos coins vers Colomiers, organisée par l'Auto Rétro Club de Colomiers. Donc, une balade avec moto et scout ancienne. C'est le dimanche 15.
C'est pas auto, moto, scout.
Alors apparemment,
pour ce week-end, je pense que c'est
pour le week-end, c'est surtout pour ces deux-là. Donc pour les motos et les scooters, voilà, ça y est, je l'ai. Alors, repas, visite, apéritif de clôture et remise des prix. Participation 25 euros pour ceux qui veulent, je suppose, manger avec eux. Donc c'est la balade des pétroulés à Colomiers. Un numéro de téléphone, 05 61 78 15 55. Je répète, 05 61 78 15 55. La balade des pétroulés à Colomiers ce dimanche 15 avril. Voilà. Pour ceux qui en ont eu plein la tête pendant la manif, et le lendemain, ils peuvent aller voir quelque chose de plus sympathique.
Et pour ceux qui ne sont pas en colère, il y a quand même un Manicourt, le Boulder Classique.
Oui.
Aussi ce week-end. qui commence même vendredi, puisque vendredi, il y a des courses du Tone-Up. Tone-Up, c'est un club de moto anglaise, ancienne. Le samedi, une manche d'endurance classique, des manches d'Afamag, des manches de Pro Twin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jacinthe ? Aide-moi. T'as pas le programme ?
Non, j'ai pas le programme.
Afamag, Pro Classique, Pro Twin, VMA. Alors, VMA, c'est vitesse moto ancienne. Une manche la nuit, enfin à la tombée du jour, d'endurance le samedi soir, enfin dans la nuit, quoi, avec les phares et tout, donc pour faire vraiment bol d'or à l'ancienne. Et le dimanche, une autre manche d'endurance à l'ancienne, et toujours des manches en fait de VMA, Pro Twin, Pro Classique. Donc c'est pareil, c'est une grande manifestation, mais c'est à Nevers, sur le circuit de Manicourt, donc c'est un petit peu loin, mais.
Il y a un petit bout de chemin, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil.
Ouais.
Ensuite, eh ben, au mois de mai, va commencer la saison des filles, la Dream Cup. Tu connais la Dream Cup ?
Non.
Ah, il faut regarder ça de près, puisque
c'est
des gonzesses.
Ça vaut le coup, non ?
Alors, l'édition de 2007, elle comporte 8 courses qui se feront sur 4 week-ends. Ce premier week-end pour ces dames se fera les week-ends du 4, 5 et 6 mai sur le circuit de Lédenon. Voilà, donc affaire à suivre. Il faut aller voir les filles avec la Roadster Cup, une course ERT, la Twins Cup, donc pour les bicylindres. Et ben on regardera ça de près. J'espère qu'on pourra vous donner de bonnes nouvelles.
C'est dans le cadre après, du week-end racing en fait.
Voilà.
C'est pareil. Ils ont rassemblé en fait parce que c'est des petits championnats qui intéressent pas forcément tout le monde. Donc ils rassemblent plein de courses entre elles. T'as dit
c'est le week-end racing cup.
T'as le Top Twin, la Promotion Cup, Endurance Racing Twin et Roadster Cup. Tout ça pendant les mêmes week-ends.
Donc il faut aller voir les filles à Lédenon le 4, 5 et 6 mai prochain.
Après c'est 7-8
juillet. 7-8
juillet,
ça sera sur Carole. Ensuite, eh ben, ça nous amènera en septembre, le 8 et 9 septembre sur le circuit du Vigan. Et elles finissent à la fin du mois de septembre, le 22 et 23, sur le circuit de Croix en Ternois. C'est dommage, ça fait un petit peu loin tout ça, mais ça vaut le coup d'œil.
Et il y a 25 pilotes, pilotesses.
Pilotesse.
Piloteuse.
On peut dire des pilotes.
Il y a 25 pilotes. Alors.
Pilotesse, hôtesse, c'est sympathique.
Ouais, c'est pas mal.
Bon. On se fait une petite pause musicale avant de passer à l'actu chaude. Et c'est toi qui nous as choisi les morceaux de musique pour ce soir, Pat.
Ouais, les morceaux de musique pour ce soir, tu te lances là carrément comme ça, à froid.
Alors qu'on a perdu le technicien.
On n'a pas le technicien, ouais, mais il ne doit pas être bien loin. Hein. C'est un groupe de Jones, c'est Bullet for My Valentine. Et le morceau s'appelle « Tears Don't Fall ».
Vous êtes toujours dans les guidons de l'info, votre émission motarde, comme tous les mercredis soirs de 19h à 20h, et nous sommes dans la rubrique sécurité et actu. Parce qu'actu, il y en a ce week-end, et Dao, je crois que tu as des précisions sur les motivations de cette manifestation et de cette mobilisation nationale.
Et oui, ça fait partie de l'actu, effectivement, puisque c'est ce week-end. Je pensais pas que tu allais commencer par ça. Et oui, parce que bon, j'entends encore des collègues, des gens que je croise, même des motards, de temps en temps, venir me voir et me dire « Mais le mail que tu m'as envoyé là sur la manif, c'est quoi? Encore une manif FFMC Mais vous en faites une fois par an, et puis c'est toujours la même chose. » Et là, je suis obligé de leur répondre. Je suis obligé d'expliquer pourquoi, comment, par qui, etc. Et ben, un pote à nous a envoyé un bon récapitulatif par la FFMC.
Mieux qu'un pote, puisqu'il s'agit bien de Eric Thiollier, qui est salarié de la FFMC et délégué général, en fait.
Ouais, mais c'est pas ce pote-là que je pensais.
C'est pas celui-là que tu pensais. C'est lui qui l'a envoyé. L'origine, la source.
Je pensais à Pierre, tu vois, qui m'avait envoyé un message synthétisé par la FFMC, donc par Eric Thiollier.
Voilà.
Et qui répond en fait à des petites questions qu'on peut se poser. Donc, notamment, alors les motards, vous êtes encore en colère? Et on y explique qu'effectivement, c'est pas sans raison que la colère monte un tout petit peu, parce que on est dans un environnement où les lois deviennent de plus en plus liberticides contre la moto. Ça fait plusieurs années qu'on accumule ce genre de considérations. On interdit certaines infrastructures, on pénalise énormément les gens qui font des modifications à leur moto. On est obligé maintenant de déclarer les balades ou les espèces de consentes, les regroupements moto. Et en plus, on est face à plein d'interdictions, et on est face à une France qui refuse d'appliquer les lois, les réglementations européennes sur la libre circulation des biens. Donc voilà, donc la FFMC est dans ce débat-là. Et essaye de proposer des solutions, et comme ça n'arrive pas et qu'il y a les élections bientôt, elle fait appel à manifestation pour montrer qu'il y a quand même une grande partie des électeurs qui sont motards. Alors certains pensent que...
Non, l'inverse, une grande partie des motards qui sont électeurs. Parce qu'une grande partie des électeurs qui sont motards...
Il y a une bonne partie des motards qui sont électeurs.
Oui.
Voilà. Enfin, je crois que tous les motards sont électeurs potentiels. Maintenant...
Sauf ceux qui ont fait de la prison. Tu vois, déjà, t'en enlèves un paquet.
T'as pas le droit de voter quand t'as fait de la prison?
Ça dépend pourquoi. D'accord. Ça dépend le délit. Pas si tu t'es fait flasher à 130.
Et si t'as pris tes 7 500 euros et tes 2 ans de prison pour avoir modifié ta moto, t'as le droit de voter après?
Ah, je sais.
Alors certains nous demandent aussi, comme c'est les élections, vous allez sans doute encore faire une manif contre un tel ou contre un tel ou contre un tel. Bon, il se trouve que là, on s'en fout complètement, si vous voulez, des choix politiques de chacun. C'est pas le problème. Le problème, c'est de, enfin, l'idée, c'est de mettre en avant les spécificités de la moto, de faire en sorte que les lois qui sont faites n'aillent pas contre la moto. Donc c'est pour ça que Motomag et la FFMC ont sorti des... Tu vas nous en parler tout à l'heure, hein. Mmh. Elles ont sorti des bulletins, des questions faites pour les différents candidats, à tous les candidats, qui ont répondu pour la plupart. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on manifeste. Hein. C'est pas pour ou contre un tel, c'est pour que tous les candidats nous écoutent et qu'on obtienne satisfaction au bout d'un moment. Et alors, vous allez encore manifester pour rouler comme des oufs. Évidemment, c'est pas le cas. Hein. On sait très bien que c'est pas parce qu'on roule, c'est pas parce qu'on a une 500, qu'on a une 1000, qu'on va avoir plus de chances d'avoir des accidents. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on débride d'une moto que ça fait plus d'accidents. Ça a été prouvé par A plus B plus C, tout ce que vous voulez.
Et la mortalité en petite cylindrée est suffisamment importante.
Voilà. Donc, les chevaux n'ont rien à voir dans l'histoire des accidents. D'accord? Et...
Sauf dans le cas des accidents de chevaux, de chemin-là. Les accidents de cheval, on n'y peut rien.
On l'attendait pas du tout, celle-là.
Et oui, c'est vrai. Et donc, c'est pour sortir un petit peu tous ceux qui sont, qui font pas autrement parce qu'ils sont tombés amoureux d'une moto finlandaise, d'une moto allemande, d'une moto espagnole, qui roulent, en fait, de manière clandestine en France avec, parce qu'elles sont débridées. Eh ben, on voudrait un peu les sortir de cette clandestinité.
Surtout celui qui roule en moto finlandaise. Celui-là, j'aimerais bien le connaître. Ouais, qui se passe connaître.
Celui qui a déménagé, tu sais. Il y a une histoire comme ça sur un. Je sais pas si c'était un Suédois ou un Finlandais ou un Hollandais. Enfin, ils viennent tous de là-haut. Qui avait déménagé pour parce qu'il avait trouvé un boulot en France, il est venu avec sa moto, il était face à un problème, parce qu'aux mines, ça passait pas.
D'ailleurs, en connais-tu des marques finlandaises? Moi, comme ça, ça me saute pas à l'esprit.
Moi, j'étais en Finlande, tu sais, et franchement, c'est pas un pays où t'as envie de faire de la moto.
Déjà.
Je suis allé en sidecar parce que c'était déjà
ça tient mieux la route.
Compliqué, mais c'était quand même pas facile. Hein.
Donc voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui roulent comme ça, clandestinement, avec des motos qui soient normales. Hein. Et on voudrait aussi montrer que, certes, la moto, elle a ses spécificités, mais qu'elle devrait quand même être considérée de manière aussi égale que les voitures, par exemple, ou que d'autres véhicules. Et donc, la FFMC demande à ce que les motos soient prises en compte avec ses spécificités, mais comme toutes les autres catégories d'usagers. Et donc, égal face au code de la route, égal face, encore une fois, aux particularités, aux changements, aux modes de transport qu'il y a avec la moto. Et donc, vous avez plutôt intérêt à venir manifester avec nous le 14 avril.
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la FFMC avait envoyé un questionnaire en 3 chapitres avec pas mal de questions dessus, sur tous les thèmes qui sont chers à la FFMC, sécurité, formation, équipement, infrastructure, etc. Et ils ont répondu, hein, pour la plupart, effectivement, Sarko, Ségolène et compagnie, ils ont tous répondu à la quasi-totalité des questions. Et vous pouvez trouver la réponse de chaque candidat en ligne sur le site de Motomagazine, donc c'est motomag.com, hein, je crois, tout simplement. Donc vous y verrez la réponse de certains. C'est assez surprenant, hein, dans les différentes réponses, et pour vous le dire comme je le pense, les réponses de Sarkozy par exemple, ça pue l'hypocrisie à plein nez, mais ça c'est une opinion tout à fait personnelle, comme vous le présentez, mais effectivement on s'attend pas du tout à ce genre de réponse de sa part à certaines questions. Ségolène bouscule aussi un petit peu. De Villiers, pareil. Mais c'est intéressant d'aller jeter un œil, voir ce qu'ils en pensent. Il y a des moments où on se demande si c'est vraiment eux qui ont répondu, quoi, en fait. je crois que c'est plutôt les bons conseillers, l'équipe de bras fonctionnaires autour d'eux qui se sont chargés de répondre à toutes ces questions-là. Je crois que c'est surtout comme ça qu'il faut le penser, mais bon. Par curiosité, je crois qu'il est bon d'aller voir. Vous avez aussi une analyse et une synthèse complète dans le dernier Moto Magazine. Voilà, on ferme cette parenthèse, puisqu'on a assez parlé FFMC pour ce soir. On se retrouve ce week-end tous. Non, pas le morceau de musique, pas encore. Il y a un petit détail que j'ai oublié tout à l'heure dans l'agenda, donc je vais profiter de l'occasion pour vous parler de quelque chose de beaucoup plus ludique. Est beaucoup plus agréable, car malgré toutes ces lois qui nous pondent un petit peu à la con, genre déclarer 2 mois à l'avance au préfet de votre région de votre prochaine balade, eh ben on s'en fout, on se balade quand même. Et il y a un rallye, le rallye de printemps 2007 organisé par la Fédé, justement. Merde.
Ce sera décompté dans le temps de parole.
C'est un très bon rallye. Hein. Je crois que cette fois-ci, je vais y aller en tant que participante d'ailleurs. Et le rallye s'appelle des Copains d'accord. Ça se passera le 23 et le 24 juin prochain, le 23 et le 24 juin. Donc toujours sur le même principe, avec une partie très touristique, un itinéraire que vous allez suivre au livre de route, avec des contrôles de pointage et puis des petites questions touristiques qui vont vous faire un petit peu tourner la tête dans les villages et dans les environs que vous allez fréquenter. J'espère encore une fois, comme d'habitude, des routes et des paysages magnifiques. À avec une arrivée le samedi soir dans un gîte, avec une soirée bien sympathique et conviviale, et c'est reparti le lendemain pour même principe, un itinéraire au livre de route et un retour complètement fatigué et puis content le dimanche soir, comme d'habitude. Le prix du rallye, qui comprend le repas de samedi, samedi midi, samedi soir, la nuit et le dimanche midi, c'est 70 euros par pilote, 55 euros par passager, parce que vous pouvez amener quelqu'un avec vous. Et les renseignements sont à prendre au 06 07 62 40 93. Voilà, c'est le rallye de printemps 2007 des Copains d'Accord qui aura lieu le 23 et 24 juin 2007 prochain. On se fait une pause musicale malgré l'absence du technicien qu'on va aller chercher, et après nous allons entendre et après ce morceau de musique nous entendrons Yves et sa revue de presse,
justement un morceau qui va très très bien avec ce que vous étiez en train de nous raconter. C'est un morceau d'un groupe qui a disparu, qui s'appelait FFF. C'est un groupe français, la Fédération Française de Funk, et c'est Requiem pour un con.
Because I'm the big question.
de retour dans les guidons de l'info et Yves va se lancer ce soir. Comme je vous l'avais promis, quand on est devant les kiosques à journaux, la presse, on ne sait pas trop où donner de la tête. Et ben, choix, Yves est allé découvrir pour vous quelques revues de moto anciennes.
Voilà, j'en ai découvert donc 4. Donc Moto Légende, Moto Revue Classique, et donc qui sont des bimensuels. Et La Vie de la Moto et Moto d'Hier qui sont là des mensuels.
Il y en a deux qui appartiennent au même groupe là, qui nous présentent en fait. Moto Légende et LVM et ouais. La Vie de la Moto, ça appartient au même groupe.
C'est le même groupe ?
Ouais.
Ah, je savais pas.
Toi, si tu regardes les annonces, tu vas voir qu'en fait tu retrouves des motos de l'un à l'autre.
Mais déjà, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup par la présentation. Bon, ils font à peu près déjà les 200 pages, quoi. C'est vrai qu'elles se ressemblent. Peut-être.
Et c'est des vieux magazines moto qui traitent, ouais, ouais. C'est quasiment les plus anciens à parler de la moto ancienne, si j'ose dire. Parce que c'est beaucoup plus récent, Moto Revue Classique, ça a été lancé il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est Moto Revue existait déjà avant, quoi, ça s'est en deux.
Ouais, en fait, c'est des. Oh, c'est un truc compliqué. C'est la grande époque de Moto Revue des années 70. En fait, l'éditeur de cette époque-là a proposé à Moto Revue de relancer une revue, mais qui parlerait des époques où lui il était éditeur.
D'accord.
Et les autres, ils sont, comme ils ont vu que Moto Légende était quand même le grand magazine, enfin avec LVM, les grands magazines de la moto ancienne, ils se sont dit il y a peut-être un filon dans ce truc-là.
À suivre, ouais.
Ils ont sauté dessus. Par rapport à Moto d'hier ou d'aujourd'hui, où c'est plus une bande de farfelus, ils se sont dit nous aussi on va faire notre journal dissident de LVM en fait.
Bah justement, c'est dans le moto d'hier que tu as plongé un petit peu plus, Yves.
Oui, tout à fait. C'est celui que j'ai le plus suivi. Je vais vraiment été plus attentif, quoi. J'ai retrouvé dans beaucoup d'articles, notamment sur l'histoire des motos, mais aussi des pilotes pro et amateurs. Je pense que sur cette revue, le côté amateur ressort le plus. C'est vraiment des histoires de personnes qui racontent juste une petite balade qu'ils ont fait, dans les détails, personnes qu'ils ont rencontrées. On voit qu'ils laissent plus le temps, aux amateurs, peut-être de laisser un peu une trace de ce qu'ils ont fait.
Une revue plus proche du motard, en fait, et plus que de la machine, de voilà. La passion.
Voilà, plus de la motard. Passion, plutôt que de la machine elle-même, et même plus proche de l'amateur, en fait, j'ai l'impression. Quoi. C'est vraiment raconter, déjà on y retrouve toutes les bourses d'échange qu'il y a, tous les clubs, on peut y retrouver vraiment des histoires de passionnés, quoi, tout simplement. Quoi. Donc après, bon, le magazine est plus peu, fait une trentaine de pages à peu près. Et malgré ça, il y a beaucoup. Enfin, il y a quand même les articles ouverts sont quand même relativement longs et précis. Notamment, il peut y avoir d'histoires, par exemple, sur des personnes qui font de la rénovation. Donc, on peut aussi découvrir des ateliers de mécanique ou tout simplement des clubs, des clubs de passionnés qui organisent, par exemple, des courses ou ce genre de choses.
Tu disais, The Pat, que c'était un journal de farfelu, mais en même temps, dans le contenu et la technique,
très
pointilleux.
C'est une bande de copains, si tu veux. En gros, LVM et Moto Légende, c'est aussi LVA, la vie de l'auto. C'est aussi Auto Rétro. Enfin, tu vois, c'est un groupe de presse. Moto d'hier et d'aujourd'hui, c'est Pierre Martin, je crois, le rédacteur en chef. Mmh. Et puis tous ses potes, Patrick Négro, tout ça. Et c'est une bande de copains qui roulaient ensemble dans les années 70, tu vois, donc c'est des motards, quoi, d'abord. D'ailleurs, t'as vu que la publicité, c'est pas un truc où il y en a des tonnes, hein, on peut pas dire qu'on soit inondé par la publicité. Et c'est vraiment pas du tout la même façon de voir la presse moto. Donc t'en as un qui fait partie d'un groupe de presse et puis les autres, c'est des comme tu dis, c'est des gens qui racontent leur quotidien de motard, quoi, leur
c'est
vie
pas
de motard.
On n'a pas l'impression que c'est vraiment des journalistes spécialisés qui vont à la découverte de personnes et de rassemblements, quoi.
C'est pas tout à fait vrai, en fait, parce que t'as des types comme Patrick Négro qui sont des mecs qui sont spécialisés, par exemple, si tu veux parler des scooters des années 50, ce type-là, tu vas tomber sur lui, tu vas voir que c'est une bible. Bernard Solerteb, c'est un mec qui est passionné. On en a parlé il y a pas très longtemps, il y a 15 jours, parce qu'on parlait
des
Negrini, je crois. C'était du Negrini qu'on parlait. Du Paloma. On parlait de cyclos, et ce type-là, c'est le président du cyclo-club français. Cyclosport Club Français, ou Club de France, enfin bon bref, un club de cyclo des années 50-60, et c'est pareil, tu parles cyclo avec lui, mais c'est une bible, il t'en sort, il connaît tout, c'est incroyable. Donc tu vois, c'est pas tout à fait le même esprit, quoi, c'est vraiment, c'est une bande de copains, en plus moi je l'ai vu naître ce journal, parce que c'était des mecs du 95, et je les connaissais à peu près tous, tu vois, et ils se sont vraiment dit, il y en a marre de LVM, on va faire notre truc à nous, où on mettra un peu moins de place à l'esbrouf pour rentrer un peu plus dans le cœur de ce qui tient aux motards de passionnés d'anciennes, quoi.
Qu'est-ce qui t'a accroché le plus dans la moto d'hier?
Déjà, j'étais surpris par la précision des articles au niveau mécanique, où vraiment, bon, quand même, quand on avait l'histoire d'une moto, on avait même les numéros de série, ce qui s'était passé, vraiment l'évolution, les personnes qui avaient appelé pour faire le design, voire même en fonction des différents fournisseurs, les différences qu'on pouvait avoir sur le même modèle de la même année, tout simplement parce que le fournisseur était différent. Donc j'ai trouvé vraiment les articles très précis, et on avait même accès à certains détails, quoi. Même comment ils expliquent la naissance d'un groupe qui s'occupe de rénover certaines pièces mécaniques. Ils expliquent pourquoi pourquoi il y a eu ce besoin, c'est les matériaux étaient pas nobles à l'époque, donc ils proposent de nouvelles solutions ou retraiter les pièces d'usure pour qu'elles soient avec des matériaux plus nobles. J'étais assez bluffé par la technicité, mais malgré tout abordable, c'est-à-dire que c'est compréhensible, quoi.
C'est des professionnels, hein, presque tous, hein, en fait. Presque tous, un jour ou l'autre, ils ont travaillé dans le monde de la moto. Donc, ils n'ont pas la même vision qu'un type qui est pigiste, qui vient parler de moto, tu vois, comme il pourrait parler d'autres
choses.
Juste
pour faire un... Ils ne font pas juste qu'un exposé de quelque chose qui s'est passé, quoi. C'est des vrais articles.
Ouais, puis souvent, enfin, bon, c'est des gars qui, maintenant, entre 40 et 50 balais. Donc tu vois, ils peuvent parler des motos des années 60. Je veux dire, ils avaient 20 ans à l'époque, c'est quelque chose qu'ils ont vécu de l'intérieur. Donc c'est sûr que t'as pas la même vision.
Ils s'accordent pas le même temps non plus pour les faire. C'est ça que je les ai pas tous.
Non, mais
lus.
C'est sûr.
Tu vois, les articles, ils sont conséquents. En plus, c'est pas trop mal écrit. T'aimes bien les lire, quoi. Et puis sur deux thèmes qui se ressemblent, ils disent pas du tout on retrouve pas les mêmes choses, ils ont toujours des trucs différents à dire. Vous en aviez déjà ramené une fois là, et je sais plus sur quel thème c'était, mais deux
approches
différents sur le même thème. Je sais plus si c'était les mêmes auteurs, mais en tout cas voilà, que tu relisais et c'était pas les mêmes choses, c'était pas la même façon de lire, enfin c'était chouette.
Mais ça se contredisait pas pour autant quand même.
Et ça se non, bien sûr que ça se contredisait pas, c'était d'autres éléments, et à chaque fois il y a des éléments en plus. Comme tu disais, le fait qu'il soit technique, s'il décide de faire de parler d'une moto, et ben la même moto qui aura été faite en fait par d'autres par un ingénieur différent qui aura repensé un petit peu la moto. Paf, il y a des milliers de trucs qui vont ressortir. Ils sont allés piocher un tout petit peu plus ailleurs pour la faire. Ça, je trouve ça impressionnant.
Ouais, d'autant qu'en plus, c'est pas que de l'histoire. On sent vraiment le désir de faire vivre les motos au quotidien, parce que c'est vraiment des infos qui peuvent encore servir, notamment dans la rénovation, les conseils. C'est vraiment, on sent que c'est vraiment pour un public qui cherche à faire rouler sa bécane, quoi. C'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi, quoi.
Donc c'est pas qu'une revue d'histoire, c'est un c'est une revue vivante, quoi.
Voilà, tout à fait. Ouais. Enfin, il y a quand même des articles qui racontent un peu l'histoire aussi, l'histoire des pilotes, l'histoire des machines. Bon, après, qu'on retrouve aussi dans les autres magazines. Et c'est vrai, bon, il y a vraiment énormément d'éléments. Je pense qu'il faut picorer au fur et à mesure ce qui nous intéresse, pouvoir revenir dessus, les conserver, parce que voilà, c'est pas un bouquin, ça reste un magazine, quoi. Mais très riche et dans tous les deux assez diversifié, quoi.
Ben merci pour tout ça. À lire et par curiosité, simplement à découvrir Moto d'hier, la vie de la moto, moto classique, moto revue classique. Dans une prochaine rubrique revue de presse, alors je sais pas quand on la fera, on s'orientera peut-être sur, il y a une nouvelle presse qui est née il y a pas si longtemps que ça en fait, hein, vu l'explosion du nombre d'usagers de 125, les kiosques en sont aussi envahis par différentes revues qui nous parlent de 125 en long, en large et en travers.
Mais tu vois, ça me fait super peur au niveau parce que moi j'imagine, si tu veux, qu'un truc super commercial, mais bon, peut-être qu'on peut être surpris.
Donc on va aller jeter un œil, voir ce qu'il y a dans, voilà, dans ces rues-là, en termes de contenu aussi, effectivement, voir s'il y a des conseils intéressants pour ces motomobilistes, comme on dit souvent ici, et puis sur les machines présentées, hein, la façon dont c'est présenté pour ce public-là. Ça doit être intéressant à voir.
Pour Moto d'hier, il y a un site qui est vachement intéressant, ils ont un site en fait... Ouais. C'est tu as l'adresse? Je l'ai là. Vas-y. http://site.voila.fr/moto-d'hier tout collé. MOTOSDHIER.
Moto au pluriel.
Moto au pluriel.
Et si vous n'avez pas tout compris sur un moteur de recherche comme Google, vous tapez moto d'hier, vous y allez direct.
Oui.
Voilà. Un dernier petit morceau avant la dernière ligne droite de ce guidon.
Un dernier petit morceau. Eh ben, puisque tout à l'heure c'était le requiem pour un con, maintenant on pourrait peut-être se faire la vie en rose, mais c'est toujours pareil. Il faudrait qu'on ait un ingénieur qui fasse pas la grève, mais je pense que c'est râpé, parce que notre technicien il est vraiment rebelle ce soir. Ah non, mais que fait Radio Mon Pays? C'est un truc incroyable. Donc c'est la vie en rose, mais ça n'a rien du bi de ce qu'on parlait tout à l'heure. Hein. C'est pas du bi pour les... Bon, bref, c'est pas ça. C'est Zazie.
Ouvrez vos oreilles.
Il me l'a dit, la jurée pour moi.
les guidons de l'info se terminent avec un anniversaire, 25 ouais. bougies.
25 ans de pâte.
Jeune. Ah, mais je sais, c'est trop beau. 25 ans pour la BFG. Parce que bien avant Vauxhall, il existait des motos françaises. Vous savez, c'est pas eux qui ont inventé ça. C'est pas le label, c'est pas De Villiers Power. C'est une chose qui existait. Non, parce que je dis De Villiers, parce que son slogan, c'est 100% français. Vous avez pas vu ça?
Non.
Ouais, c'est beau, hein.
C'est Banque de France Gaz.
Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Donc, il existait donc avant Vauxhall une moto française qui défiait BMW et autres Goldwyn et Duzi et toutes ces choses.
Défié ?
Ah ouais, défié, parce qu'il fabriquait une vraie routière de 1300 cm3 quand même. Donc à 25 ans, les 1300, ça courait pas. T'avais Munch, mais Munch, lui, il a jamais su s'arrêter. Ouais, il faisait de la démesure, il allait jusqu'à 1600. Mais après, une Goldwyn, c'était une petite moto, c'était une 1100. Il y a 25 ans, ça n'existait même pas d'ailleurs. Et les BM, c'était des 1000, les plus grosses. Là, il nous sortait un 1300. Alors, faut essayer de se rappeler pour les plus vieux, mais en gros, on en a parlé ici. Il y a eu la Ratier, vous vous rappelez, c'est une de ces espèces de BMW, des copies de BMW fabriquées en France avec des morceaux de BM laissés par les Allemands, quand ils se sont carapatés. Ouais. Ça, c'était en 62. Et là, c'est le moment où, en fait, il y a des types qui se disent, tiens, on va se faire une bonne grosse moto, 4 temps, 1300 cm3. Mais bon, ils ne se sentaient pas de faire un moteur, donc ils se sont dit, on va prendre un moteur qui existe, mais en 1300, dans la production moto, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ils se sont tournés naturellement vers les voitures, et les voitures françaises. Et ils nous ont trouvé la GS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la GS, mais elle avait un petit moteur 1300 essence.
Et c'est pas les seuls à avoir fait ça, d'ailleurs.
C'est pas les seuls, non. Mais en France, il y a eu quand même toujours des gens qui ont fabriqué des motos à 50 exemplaires ou à 20 exemplaires.
C'est avec énorme quand même.
Un moteur de GS, oui, c'est quand même encombrant. Ouais. C'est sûr que si t'as ça au milieu de l'escalier. Ouais. Ah, c'est une belle bête. Hein. Il y avait quand même à l'époque la 350 Tobec, la 3 cylindres de temps, qui résistait encore, qui essayait de nous faire croire que c'était une alternative aux japonaiseries, mais non. Ça n'a duré que jusqu'en 76.
Le moteur, il était transversal.
Là, tu parles de la BFG ?
Ouais, de la BFG.
Oui, il était transversal. Ouais.
Disons, il devait...
En travers, comme une espèce de flat twin. Hein,
ouais, puisque c'est ça.
Donc, en février 82, les deux premières BFG de série furent livrées à un type qui s'appelait Charles Krashka. Charles Krashka, qui est une espèce d'image comme ça, des professionnels de la moto, qui a marqué 50 ans d'histoire de la moto, parce que ça a été l'importateur Moto Guzzi en France. Ensuite, il a été le premier à vendre des BFG.
Le mécène de BFG, tu sais.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et c'était attendu par plein de motards en France, parce qu'on se disait, ben ouais, ça y est, la moto française va revivre et tout ça. Et puis, voilà. ça me rappelle une histoire, ça, tu sais. Ouais, sa moto française va revivre. Bon, bref, BFG, ça doit son nom aux trois concepteurs de la marque. Louis Bocardo. Alors Bocardo, on entend parler de lui un petit peu parce qu'il continue à fabriquer des motos actuellement, aujourd'hui. Bon, c'est des motos un peu élitistes, hein, parce que c'est réservé à l'élite, mais bon, c'est encore des motos françaises, mais motorisées par des moteurs japonais souvent. Monsieur Favario, qui était un ingénieur, et Thierry Grange. Donc Bocardo, Favario, Grange, ça fait BFG. On a le compte est bon. À noter que pendant tout le développement de ce qui va devenir la BFG définitive, Bocardo, il s'est carapaté, hein, en fait. Il n'est pas resté jusqu'au bout. Mais bon, il faisait partie de l'histoire. Et il développait à côté une autre moto qui s'appelait MF, pour moto française, aussi motorisée par un moteur Citroën, mais qui n'a pas rencontré plus de succès que sa grande sœur. C'était un 650. Avec un twin d'origine Citroën, donc un 650 twin, c'est... Ouais, non, je vous vois, non.
650 twin Citroën,
ça vous dit rien? Un truc quand même qui a marqué l'histoire de la voiture.
C'est la Dodge.
Eh oui. Donc, le bureau d'études BFG assure la conception de la boîte de vitesse et du pont arrière. Donc, boîte de vitesse, pont arrière, ça veut dire cardan. Ah oui, moto avec cardan. avec des fonderies particulières. Une petite aparté quand même, c'est que quand on démonte une DFG, en fait, on trouve des arbres de vitesse de Guzzi, et un couple conique de Guzzi, mais dans des fonderies maison. Parce que bon, bah, ils vont pas aller chercher à nous inventer un truc qui a déjà été inventé par le voisin et qui marchait. Donc c'était aussi comme le moteur est transversal, il se retrouve dans le même sens qu'un Guzzi.
Ouais.
Tu vois, il est à plat au lieu d'être en V, mais bon, il est dans le même sens qu'un Guzzi, donc autant prendre une boîte qui tourne dans le même sens. Parce que quand le moteur est dans l'autre sens, par exemple, je sais pas, un Ducati, le V est dans l'autre sens. Toi, ta sortie de moteur, là, bon, il est pas du bon côté. Donc là, ça devient compliqué. Il faut des renvois d'angle pour pouvoir transmettre à la boîte et tout. Enfin, c'est tout de suite le bordel. Alors que là, c'était simple, hein. T'as un embrayage à sec, comme sur la Citroën. Une boîte de vitesse qui vient dedans, comme sur un Guzzi. Et hop, c'est roulé. Donc, qu'est-ce que je disais? Les pièces internes, boîte, coupe, oui, donc c'est du Guzzi, donc ça c'est dit, évidemment, bravo Guzzi, merci. Le moteur d'origine Citroën, donc la GSA, bénéficie de plein d'accessoires visant à améliorer un peu son esthétique, parce que bon, dans une voiture, ce qui est bien, c'est que le moteur, on le voit pas.
Il est planqué.
C'est plutôt mieux.
Et on l'entend moins.
Pas très beau. Et on l'entend moins, ouais. C'est pour ça qu'il le cache, hein. Si c'était beau, il le montrerait. Avec plein de petits trucs quand même différents, hein. Ils ont changé le système d'allumage parce que c'était pas évident d'avoir une tête de Delco, là c'était un peu stupide. Sur la BFG, il est monté en allumage électronique intégrale, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bien. Une pompe électrique à essence immergée dans le réservoir en plastique soufflé. Alors attention, hein, il y a 25 ans, un réservoir en plastique soufflé, c'était quand même c'était très en avance.
C'était high-tech.
Aujourd'hui, ouais. On trouve ça sur les Brels de maintenant. Mais il y a 25 ans, personne n'y croyait. Ils disaient, ouais, ça marchera jamais. Bon. Et là, le coût de la pompe électrique immergée dans le réservoir, c'est apparu ensuite sur les motos en grande série, on va dire, avec le Cassant. Cassant qui sort à peu près... Le Cassant, ça sort en 87. Donc tu vois, il gratte quelques années avant le Cassant déjà le système de la pompe à essence immergée dans le réservoir d'essence. Comme quoi, les Spunts, ils n'ont rien inventé non plus. Les équipements de la BFG, ben, c'est ceux d'une moto de grand tourisme, hein, donc la transmission à catène, le cardan pour ceux qui ne suivent pas, le carénage intégral, mais en version intégrale, où tu peux rouler ta cigarette à 120, limite moche, mais bon, ça a les goûts et les malheurs. Le tableau de bord GGR, dérivé directement d'une R5 Alpine. Ils sont pas embêtés, ils ont pris le tableau de bord d'une R5 Alpine, ils l'ont mis dans le carénage. De toute façon, vu la taille du carénage, ils auraient même pu mettre un tableau de bord de semi-remorque, ça rentrait, avec le chauffage et tout. Et il y a toutes les indications qu'on trouve d'habitude, hein. Ils ont rajouté un point mort, parce qu'en voiture, ils le mettent pas.
Donc tu es en train de nous dire que c'est un truc très moche, quoi.
Disons que c'est assez particulier. C'est pas moche, mais c'est très particulier. Tu sais, c'est comme tous les trucs moches. Hein. Une MZ, c'était moche quand c'est sorti. Et puis, en fin de compte, avec le temps, on s'habitue.
Et on les trouve très jolis.
Donc, le moteur de la BFG, quand même, c'est un 1300. Donc, il a un petit peu de coffre. Et puis, il a un couple à 2500 tours. Quoi. Donc, c'est quand même un tracteur monstrueux. En gros, ça se passe où? Ça se passe à côté de Chambéry, hein, dans l'usine de Ravoir. Ils produisent 400 modèles de 82 à fin 83. À 84, l'usine est rachetée par MBK. Ils les produisent à Saint-Quentin, mais ils ont un peu de mal, hein, parce qu'entre 84 et 88, ils en fabriquent que 150. Et après, c'est la fin de l'histoire de BFG. Tout le stock de pièces va être vendu à un fabricant de sidecar qui s'appelle Précision, qui était un fabricant de sidecar à l'ancienne, qui aujourd'hui a disparu. Et toutes les pièces ont été rachetées en fait par le club BFG, qui continue donc à fournir des pièces pour pouvoir rouler. Bon, il faut voir que tout ce qui est particycle, c'est facile à trouver, puisque c'est de la GS. Tu trouves encore dans les casses des moteurs de GS que tu peux jeter dans ta moto. Et les quelques pièces originales, après le reste c'est du Guzzi, donc c'est pareil, on arrive à trouver à peu près. Et puis les quelques pièces différentes comme les allumages et tout, le club le fournit. Ça c'est vachement bien. Et juste un petit mot pour finir, c'est que si BFG est mort, c'est quand même un truc scandaleux, c'est que les pouvoirs publics ont promis qu'ils allaient acheter des motos pour remplacer les BMW. Ils ont commandé à BFG 400 motos et ils les ont pas prises. Et ça, quand t'es une petite marque qui produit 400 motos en 4 ans, en une commande de 400 motos, c'est la mort. Et ça a été la mort de BFG.
Surtout que quand l'État achète à ce niveau-là.
Et donc, pour finir, éviter la mort de la moto, rendez-vous tous à la manif le 14 avril à 13h30 sur la piste municipale de Candie. Ciao à tous.
Ciao. Bye.